Bonjour, nous sommes les Worlds Apart. Vous écoutez Pop 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 Pop
Pop Pop Pop Pop.
On y va,
c'est parti.
Bon, on va pas y aller par quatre chemins, amis popopiens, ou plus trivialement dit, il n'y a pas à tortiller du cul. Le film dont nous allons parler aujourd'hui, le nouveau Nakash Toledano, hors norme, nous a littéralement scotché à pop pop pop. À la fin de la projection, ma pauvre Charline était en eau, littéralement. Elle pleurait, reniflait, octait, au point qu'elle m'a supplié d'attendre la fin du générique pour quitter la salle, histoire de m'épargner le spectacle de son visage raviné par les larmes, comme les villages de l'Hérault l'ont été par les pluies torrentielles du début de semaine. En ce qui me concerne, plus maître de moi et de mes émotions, je suis un homme après tout, hein, j'aime abattre des arbres à la hache, je me suis contenté de quelques mouvements de glotte qui trahissent pour ceux qui me connaissent un profond bouleversement. Et je défie, oui, je défie qui que ce soit ici et aujourd'hui de ne pas sortir touché, pas mortellement hein, je vous rassure, de la projection de hors norme. Car à moins d'avoir un cœur de pierre, d'être soi-même une statue, le président du fan club d'Éric Zemmour, une méduse ou un compteur EDF, voilà un film qui ne vous laissera pas intact et vous réconciliera avec l'existence alors que dans notre monde, il est temps de raisons de se brouiller avec elle. Voici un pop 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 qui du coup va vous faire du bien. Éric Toledano et Olivier Nakash sont les invités de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Paule.
Bonjour Olivier Toledano, bonjour Éric Nakash. Moi que ce ne soit l'inverse.
Oh bah ça écoute, hein, comme tu veux.
Ah, c'est difficile à dire parce qu'en fait vous êtes tellement fusionnels que je ne sais plus qui est qui là.
C'est vrai.
Et
c'est
après
vrai
tout, peu importe.
Oui, après tout, peu c'est importe. De la radio, c'est pas filmé.
Oui, non, ça n'est pas filmé, enfin, normalement. Un peu comme Charline et moi, fusionnel, j'ai envie de dire. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
Charline Roux, moi je suis plutôt poivre et sel.
C'est excellent.
De nous distinguer.
Ça peut vous aider. Ça va être comme ça pendant une heure.
Au menu également de Pop Pop Pop. Notre pop chroniqueur Pedro Winter nous raconte l'épopée pop d'un groupe qui a marqué la French Touch. Ce sera tout à l'heure. Mais avant ça, Olivier Nakash, Éric Toledano, ici, il existe une question encore plus violente qu'un morceau de Patrick Juvet. Un personnage qui fait subliminalement partie d'un de vos films. Et cette question, c'est...
Pour vous, c'est quoi la pop culture ?
Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses tolédanesques, nakachisantes et même hors normatives. Et parmi mes préférées, il y a celle de Reda Kateb qui est à l'affiche de votre nouveau film.
La pop culture, c'est souvent la culture qui génère du pognon, qui s'adresse au plus grand nombre et donc à des personnes en tant que consommateurs qui du coup génèrent de l'argent. Mais dans pop culture, moi j'aime bien aussi l'idée culture populaire. Culture qui sert pas à l'exclusion, qui cherche pas à se retrouver dans un entre-soi, mais qui au contraire propose le meilleur au plus grand nombre.
Voilà pour Reda Kateb et pour vous, Éric Toledano.
Moi, de façon non démagogique, je vais laisser donner la réponse à Olivier Nakash.
Pour moi, la pop culture, c'est toi, Antoine. Pour moi, c'est toi. Depuis Rapido, depuis même Les Enfants du Rock, Rapido, Nulle part ailleurs, jusqu'à la Gaule d'Antoine. Pour moi, c'est ça. Tu symbolises un peu la pop culture.
Et je tiens à dire qu'il a dit la même chose à Laurent Ruquier aux Grosses Têtes.
Oui, c'est ça, en fait, vous dites ça.
Non, mais j'ai dit la même chose. Et j'ai dit pareil, de nulle part ailleurs, jusqu'à la Gaule d'Antoine. J'ai dit la même chose, en plus. Tu vois? C'est un peu la même. Non, mais c'est vrai.
D'accord, bah écoutez, je suis très flatté. Je le prends exactement comme
je
le prends.
Là, je fusionne. Je partage.
Vous fusionnez.
Ouais. Là, sur ce coup, plus tard dans l'émission, je vais commencer à me séparer. C'est la fin de la promo. J'en ai un peu marre de dire la même chose que lui. Je commence même à avoir marre de le voir. Non, parce que donc là, on va commencer à s'engueuler un peu.
Non, mais quand on nous a préparé juste avant l'émission, il voulait dire Jean-Paul II. J'ai dit non, pop culture, ça n'a rien à voir avec les popes. C'est autre chose.
Ah oui, on en est là. Oui, c'est une grande fatigue, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est ce qu'on appelle la fin d'un parcours.
C'est exactement. C'est exactement.
Bon. Tu vois pourquoi je veux me séparer
Je comprends très très bien. Donc pas de définition.
Non, celle-là me va très bien.
Regarde ça. Donc c'est moi.
Ouais. Voilà. Oui, c'est ça, on peut le dire comme
Charline.
Ça, modestement, Antoine.
Ben oui, mais vous l'avez bien entendu, Charline.
Oui, je l'ai entendu. Que je vous le mais j'en suis consciente, j'étais là, vous savez, devant la télé.
Non,
vous avez
pas,
tendance à l'oublier. Mais...
La pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le rock américain de Big Thief et ce morceau Note. C'est... It's not the energy real.
blanket of thirst. It's not the hunger revealing, nor the ricochet in the cave, nor the hand that is healing.
Note cet extrait de Two Hands, le nouvel album du groupe américain Big Thief. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes aujourd'hui avec deux réalisateurs qui ont fait presque autant d'entrées que la France compte d'habitants, avec 56 872 787. Mais qui sont-ils ? Réponse avec leur pop portrait. Alors votre pop portrait, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé ben, Charline...
C'est un petit démarrage de fin de semaine.
Oui, oui, c'est le... pardon.
Aujourd'hui, deux invités dont l'évocation des noms me renvoie immédiatement à des scènes très précises, et je dois dire que ce n'est pas si fréquent. On se la raconte toujours un peu, je suis fan de... Mais vous, en l'occurrence, vos scènes, je les connais par cœur. Depuis que je sais que vous venez, messieurs, voici par exemple ce que j'ai en tête.
Écoute Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends ? Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille ! Qui prend la tête, d'accord ? Hein ? Un espèce de petit enculé ! De merde !
Joséphine de Maux dans Nos Jours Heureux, une prestation dont je m'inspire assez souvent dans l'éducation de mon enfant. Tout comme de ceci, d'ailleurs.
C'est un arbre. Un arbre qui chante. C'est de l'allemand. Quoi, je suis ? C'est en allemand.
Driss, le personnage incarné par Omar Sy dans Intouchables, devançant de peu ma mine interloquée à la découverte de cet opéra botanique au teuton. Et évidemment, à cause d'eux, dès que je dois envoyer un texto, je pense à ça.
Tu vois, c'est, voilà, ça c'est ce putain de correcteur. En plus, je trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des trucs débiles, là, ces ronds jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil.
Les smileys, ça.
Ouais, voilà, les ça, là, ouais.
Voilà, ça, lui. Bacri dans le sens de la fête, c'est donc la preuve que leur cinéma bien infusé, et petite différence avec leur film précédent, celui qui les amène aujourd'hui, m'a littéralement déshydraté. Bah, Antoine en a déjà témoigné.
Absolument, j'en ai témoigné en ouverture d'émission.
Oui, bah oui,
bien,
j'étais là aussi.
Écoutez, c'est bien. Ouais. Ça vous fait plaisir de déshydrater la plupart de vos spectatrices ?
Très franchement, oui. Vraiment,
comment ça, oui?
C'est pas, on assume complètement l'idée qu'on a envie que les gens ressortent de la salle impactés physiquement. C'est-à-dire que c'était très drôle parce que comme on est à la fin, on a beaucoup guetté le rire pendant des années. On allait à la fin, on rentrait dans les salles pour entendre rire. Et là, c'est marrant, mais peut-être parce qu'on a voulu dire autre chose, c'est certain, mais c'est le silence qui nous fait du bien. Comme s'il y avait trop de bruit autour de nous et qu'on avait le sentiment qu'enfin on avait capté l'attention, que les gens mettent un tout petit peu de temps à rallumer le téléphone.
Mais ce qui est très étonnant, c'est que c'est même pas des pleurs de tristesse, en fait. Ça fait appel encore à autre chose.
Non, mais les pleurs de tristesse, souvent au cinéma, quand ils sont forcés, ils peuvent être un peu, tendancieux. Là, je pense que c'est un peu d'émotion, d'espoir et de lumière, j'espère.
C'est une émotion, tout simplement. Ouais. Extrêmement ému à la fin de ce film. Éric Toledano, Olivier Nakache, qu'aimez-vous écouter, regarder ou lire ? C'est le moment de votre pop list. Oh. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Éric Toledano, pour le livre, votre choix s'est porté sur Ennemi, une histoire d'amour. C'est un livre de Isaac Bashevis Singer, publié en 66. Charline, des indiscrétions m'ont permis d'apprendre que ce livre plaît énormément à notre invité, car il s'agit de l'histoire d'un homme comme lui, partagé entre trois femmes. C'est bien cela ?
Oui, alors pas exactement. Je me permets d'apporter quelques petites précisions. Hermann Broder a perdu sa famille tuée par les nazis en Pologne. Il a échappé lui-même à la mort en vivant pendant 2 ans caché dans un grenier à foin. Et il vit maintenant dans un appartement à Brooklyn avec sa seconde femme. Et parallèlement, il a une liaison avec Masha. Sauf qu'un beau jour, Hermann apprend que sa première femme, Tamara, a survécu et qu'elle est en Amérique à sa recherche.
Bien. Éric Toledano, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît ?
Alors, volontiers. Hermann passa la soirée avec Masha. Ils se querellèrent, se réconcilièrent, se querellèrent encore. Comme à l'accoutumée, leurs propos furent un tissu de promesses que l'un et l'autre se savaient incapables de tenir, de voluptés imaginaires qu'ils n'éprouveraient jamais, de questions posées pour aiguillonner mutuellement leurs désirs. Masha se demandait si elle aurait permis à Hermann de coucher avec sa sœur, à supposer qu'elle en eût une, si elle eût pris plaisir à se partager entre Hermann et le frère qu'il n'avait pas.
Bien. Bon. C'est donc un extrait de « Ennemi, une histoire d'amour » de Isaac Bashevis Singer. Alors d'abord, mes informations sont-elles exactes, Eric ? Et ensuite, pourquoi est-ce que ce livre vous plaît-on ?
Alors, c'est l'auteur en général m'a beaucoup impacté. Je crois que j'ai rarement lu autant de livres d'un auteur. En plus, j'ai de la chance, il a été prolifique. C'est des personnages qui hésitent tout le temps, qui se questionnent tout le temps. Il a toujours un problème de choix dans tous ses livres. Alors, c'est souvent des choix entre plusieurs vies. Et là, il y a trois femmes. Il y en a une qui représente sa fidélité, c'est-à-dire celle avec qui il s'est marié, mais malheureusement, elle est morte, mais il y est fidèle. Mmh. Ensuite, il a une femme dont il est vraiment amoureux. Et puis, il y en a une qui lui a sauvé pendant la guerre, qui est sa femme presque de bonne conscience. Et donc, il représente presque tous les sentiments qu'on peut éprouver pour une femme. Et puis, à un moment, il y en a une qui revient. Donc, il est tiraillé entre ses sentiments. Je trouve ça d'une finesse extrême. Je trouve que c'est un auteur d'une finesse extrême. Il est prix Nobel de littérature. Mmh. Et puis il est lui-même, par exemple, il vient d'une famille juive pratiquante, mais il est végétarien, il a perdu la foi et il entretient toujours le doute. D'ailleurs, quand il a eu le prix Nobel de la paix, il a dit « Pourquoi vous écrivez dans une langue morte ?» Et comme tout le monde sait qu'il est athée, il a dit « Parce que quand le Messie va arriver, tout Varsovie va revivre et ils vont avoir envie de lire en yiddish. » Et donc j'ai trouvé ça drôle parce que même là, il a encore entretenu le doute entre sa foi et sa non-foi. Il me fascine, ce gars-là.
Bien, merci. J'ai toutes les informations dont j'avais besoin, sauf celles qui vous concernent dans votre vie privée, mais nous ne sommes pas là pour ça. Olivier Nakache, pour la série, direction Antenne 2, car vous choisissez Papa Poule, une série réalisée par Roger Kahn et diffusée entre 80 et 82. Charline, c'est la première fois que Papa Poule figure dans une de nos pop-listes. On commence donc par dire bienvenue, hein, Papa Poule.
Bienvenue, Papa Poule.
Mais rappelez-nous quand même qui du Papa ou de la Poule.
Ah, ça, je ne sais pas. Je sais en revanche que Bernard Chalette a 40 ans, qu'il est dessinateur dans la publicité et qu'il se retrouve seul à élever ses 4 enfants issus de 2 mariages différents.
Extrait.
Hé, hey, vous n'entendez pas surtout, hein ?
Mais on t'a pas oublié pour ce soir, Paul.
Oublié quoi ? Ta mère vient me chercher pour Deb et toi pour moi.
Non, quoi il parle ?
Pour Deb égale pauvre débile et pauvre taré égale pauvre taré.
On en apprend tous les jours. Bagouillez-vous les Deb. Et ce matin, c'est le chocolat pour tout le monde, ok ? Ouais.
Olivier, on vous écoute.
Oui, alors moi j'ai cru que vous alliez me passer le générique début, j'ai la musique en tête.
Ah, vous voulez le générique début ? On va essayer de le retrouver.
Non, mais c'est-à-dire que c'est... Oui, ça me rappelle d'être en pyjama devant mon écran. C'était un feuilleton, donc on attendait avec mes parents, ça passait je sais plus quel jour, mais voilà, c'était le début des séries. On les avait pas sur des tablettes la saison entière qu'on pouvait se faire en un week-end. Et là, il fallait attendre et je me rappelle cette famille, ce père seul avec ses enfants. Je sais pas, j'aimais bien. Je crois que j'étais même amoureux d'une ou deux, il y avait une grande fille, une grande sœur. Mm-hmm. Je crois que c'est quelque chose qui m'a, oui, profondément marqué. Peut-être qu'inconsciemment, d'avoir fait après des films de groupe, ça vient peut-être du fait d'avoir infusé ce genre de série. Mais je me rappelle avec tendresse de Sadie Rebaud qui jouait le rôle.
Ça vous fait plaisir de réécouter quelques notes du générique ?
Ah, j'aimerais bien. C'est très headbanger, hein, ça. Okay.
Très headbanger, oui. On n'est pas loin, oui.
Ah, je me rappelle de ça. Quand j'entendais ça, voilà, je laissais mon œuf à la coque de côté et puis je regardais.
Bien, Pedro nous fera un commentaire, je pense, directement tout à l'heure concernant Ed Banger et Papa Poule. Hein. Bien, Éric Toledano, pour le film, vous avez choisi « Nous nous sommes tant aimés » d'Ettore, non pas Grande, mais Scola. Charline, sans aucun doute, un autre film qui a dû vous faire verser des torrents de larmes.
Oui, je vous le confirme, Antoine. Gianni, Nicolas, Antonio se lient d'amitié alors qu'ils ont pris le maquis pour combattre les Allemands en 1944. À la libération, un monde nouveau s'offre à eux. Ils sont prêts à faire la révolution. La vie les sépare après la chute du régime fasciste. Mais ils se retrouvent tous les trois.
Ma quanti anni sono passati?
Da quando cenavamo, sotto la pioggia, ti ricordi?
E come no?
Dice il mondo è piccolo, ma è piccolo Gianni, 25 anni per ritrovarsi.
Certo che è piccolo il mondo.
Eh?
Eh? No, cioè, grande.
Alors d'abord, je m'en réjouis parce que pour une fois, on a la VO. D'habitude, il colle toujours des VF, oui. Pourquoi ce film plutôt que The Party, Eric? Parce que je sais que vous êtes un Blake Edwardsien.
Alors celui-là parce que d'abord il y a une phrase, il y a un dialogue, des fois il y a une musique, il y a la musique qui reste aussi, c'est Armando, celle-là aussi si on peut l'écouter,
on va essayer de la retrouver,
parce qu'on est un peu chez nous là,
oui, on est chez vous.
Voilà. Non,
il y a une musique en particulier,
celle du générique de Armando Trivaloni,
amusez-vous à trouver le nom.
Voilà,
on va vous le retrouver, vous inquiétez pas. C'est un défi, je le sens bien. Vous inquiétez pas.
C'est un film sur les idéaux, c'est un film sur le temps qui passe, c'est un film sur qui on était quand on était jeune et ce qu'on est devenu. Il y a cette fameuse phrase à la fin quand ils sont tous au restaurant et qui dit « Tu te rends compte que notre avenir est derrière nous ?» C'est vrai qu'il y a, c'est des personnages qu'on suit comme une saga. Je crois que c'est le film que j'aimerais un jour attaquer cette idée de saga, c'est-à-dire du temps qui passe, de faire évoluer des personnages dans le temps. On n'a pas encore tenté ça, mais et puis alors je dirais aussi quand même pour moi le plus grand acteur, Vittorio Gassman, le fanfaron, Parfum de femme. C'est un charisme. Moi, je suis fasciné par les acteurs. Je sors de Vincent Cassel et de Reda Kateb, des acteurs qui me fascinent. Mais Victoria Gassman, c'est peut-être le seul, en 25 ans de vie commune avec l'homme qui fait des vannes sur Young Pop, c'est la seule photo qu'on a gardée dans le bureau, c'est celle de Victoria Gassman. C'est un peu une relique pour moi, c'est religieux presque.
Parce que Gassman est dans un autre registre. C'est-à-dire qu'il est, c'est un acteur, certes, mais il y a tellement plus qu'un acteur.
Bah, il peut me tuer de rire, il peut m'émouvoir, il a des yeux, c'est un charmeur, c'est les acteurs quand ils ont pratiquement toutes les dimensions réunies.
Je vérifie en régie si Ghislain a réussi à retrouver la musique. Non, pas encore. Bah,
on chante.
Allez-y, ça
donne quoi. Ça s'écrit T-R-O-V-A-J-O-L-I.
C'est ça, exactement.
Oui. Non, mais il va la retrouver, ne vous inquiétez pas. Bon, passons à la musique, justement, Olivier Nakache et Eric Toledano. D'abord, il y a deux choix, puisque vous êtes deux, évidemment. Il y a d'abord ce premier choix. Ça, c'est le choix d'Olivier Nakache. Hein. Terry Callier, You're Gonna Miss the Candyman. C'est bien
tout
cela?
Tout à fait.
Et le deuxième choix, c'est ça.
Allez, Bigoudi, il a gagné beaucoup d'argent. Il a changé dans sa bouche plus de la moitié de ses dents. Il fume les cigarettes avec les bouts d'oreilles. Il faut flécher la barre avec les basses entrées. Il blues des rock'n'roll, il y a que lui qui le connaît. C'est lui, Ali Presley.
Ok, alors ça c'est le choix d'Eric Toledano.
On reste dans Headbanger, hein, c'est un peu le même. On reste encore dans Headbanger.
On reste toujours, dans l'humeur Headbanger.
Je tiens à préciser que j'avais ce 45 tours chez moi et la face B, ça s'appelle. C'est un truc sur Topalov aussi, et il dit Topalov à la coque. C'était ça la face.
C'est un jeu de mots. Ouais, oui. Est-ce que l'un et l'autre valident les choix respectifs?
Tout à fait. Bon, Terry Callière, ça a une histoire. C'est un chanteur qu'on adore. Ses musiques, elles nous transportent. C'est très cinégénique. Ce morceau-là, c'est comme un film, c'est comme une histoire. Il démarre doucement, il monte petit à petit. C'est vraiment quelque chose plein d'énergie. Et puis on l'a mis dans un de nos films. Donc c'est j'espère qu'on mettra un jour Ali Bigoud dans un autre film. Ouais.
Et là, je pense que Charline va pleurer aussi.
Ça sera pour d'autres raisons. Tout à fait. Voilà,
ouais. Alors pourquoi Ali Bigoud?
Non mais Ali Bigoud parce que franchement, j'aurais pu dire vraiment la chanson que je préfère au monde et qui est aussi d'histoire, c'est School de Supertramp. Voilà, c'est ma chanson favorite. Mais je me suis dit, puisque il y a Antoine et qu'on peut tout faire, je vais quand même mettre celle qui a le premier 45 tours que j'ai eu. C'était Topalov en forme, avec un grand casque, avec marqué Ali Bigoud, et je la connaissais par cœur.
Et vous la connaissez toujours par cœur, de toute évidence.
Il a gagné beaucoup d'argent, il a refait la moitié de ses dents. C'est le début, en tout cas. Ouais.
La moitié seulement. Ouais. C'est dommage. je fais un signe en régie. Est-ce qu'on l'a retrouvé, cette musique de Nous sommes tant aimés? Est-ce que c'est ça?
C'est ça.
C'est pas exactement ça. Je peux la faire écouter, si vous voulez.
Si, c'est ça. Ça va monter.
Ça va monter.
c'est pas le générique.
Ça va être un des titres, mais c'est pas le c'est... principal.
Oui, c'est... alors c'est, un des... c'est le premier titre de la bande originale, mais ce n'est pas le titre que vous attendiez, c'est bien voilà. Ça. Vous voulez qu'on continue à chercher quand
même. Je vais m'en occuper, si vous me donnez un stylo, je peux
on
la transmettre.
On peut en écouter un autre, Gislain Fontanus. Allez-y. Ça non plus. Non, non, non.
C'est disque à la demande aujourd'hui.
Ça commence par des notes.
C'est des notes un peu. Ouais.
On aurait dit le parrain un peu.
Oui, mais non, mais c'est un peu, c'est un instrument.
Bon, de toute façon, il nous reste une bonne demi-heure pour trouver la fin. Hein. Je vous promets de vous la. Ah, écoutez, on me dit que vous la. Ça y est, on l'a.
Non, c'est une autre. Ça.
Non, Gislain, ça va.
C'est des notes très reconnaissables.
Ça va devenir un sketch.
Gislain,
non.
Ça, okay, quand même, okay. C'est...
On retrouvera ça pour la fin de l'émission. Enfin bon, je résume votre pop list, messieurs. Ennemi, une histoire d'amour, Papa Poule, Nous nous sommes tant aimés, Terry Calier et Patrick Topalov. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture.
Et ça nous donne ça.
Machin se demandait si elle aurait permis à Herman de coucher avec sa sœur, à supposer qu'elle en eut une.
Et ce matin, c'est le chocolat pour tout le monde, ok?
Allez, c'est
Toledano Nakash.
Ça nous résume bien, Gérard.
Voilà la pop list de la semaine pour terminer en beauté. Bien. Eric, Olivier, vous ne bougez pas. On va parler de votre nouveau film hors norme dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Brown Sugar. C'est un morceau du chanteur américain D'Angelo.
About this girl, baby, I should. I met her in Philly, and her name was Brown Sugar. See, we be making love constantly. That's why my eyes are a shade, blood burgundy. The way that we kiss isn't like any other way that I be kissing when I'm kissing. What I miss, won't you listen? Brown Sugar, babe. I guess high up your love, I don't know how to behave. To me, you love me right down to my knees, and whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes, even got a big sister by the name of Chocolate. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave. Pretty, pretty, bitty with my sisters. Yo, I don't think y'all hit. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Ce sont les Nakash Toledano qui nous rendent visite aujourd'hui. Et on a retrouvé, oui, le générique de Nous nous sommes tant aimés. Eric Toledano, vous voulez écouter quelques notes? C'est ça?
Ouais.
C'est bien ça?
C'est absolument ça. C'est
voilà, je l'ai pas
toute la magie
des
cinémas italiens des années 60.
Ça déclenche l'envie de le revoir immédiatement, le film.
Magnifique! Magnifique. Oh, vous verriez ce sourire de mes invités. C'est tellement bon de faire plaisir parfois. Bon, Olivier Nakash est le premier résultat qui tombe sur Google quand je tape le nom d'Éric Toledano. Et inversement, ça vous fait quoi de savoir que vous êtes un peu les Dupont et Dupont du cinéma français?
Eh ben, ça nous va bien. Ça nous va bien. Ça nous va très bien. Il y a beaucoup de fratries, de frères qui font des films. Nous, on n'est pas frères, mais on est fini. Ouais, exactement. On est Aloïs Sauvage qui joue dans le film a dit, ce sont des âmes frères. Et j'aime bien cette définition.
Et nous, on a été à Lyon la semaine dernière, parce qu'il y avait le Festival Lumière, et on a eu la chance d'être en face des frères Dardenne.
Ouais.
Donc on leur a posé beaucoup de questions, notamment où était le bureau pour avoir chaque année le film à Cannes. Parce que nous, on a eu qu'une fois et on voudrait revenir, parce qu'il y avait une carte à acheter.
Ouais, ouais.
Et puis il a rigolé, il s'est dit, nous aussi, on se pose beaucoup de questions sur des frères qui sont pas frères. Donc on a eu une bonne discussion de frères et de pas frères.
Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de Hors Normes, hein, qui est sorti avant-hier. Hors Normes, c'est l'histoire de Bruno et Malik, qui vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. Bande annonce.
Le diagnostic, c'est quoi?
C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demandera le placement judiciaire.
Ça nous laisse combien de temps, ça?
Environ 15 jours.
Je vais trouver une solution.
J'imagine.
Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution.
C'est qui ce couple-là?
Ah, c'est les inspecteurs.
L'IGAS, tu sais ce que c'est? L'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur.
Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer.
L'alternative, tu la connais? C'est la fermeture.
Est-ce que je peux mettre ma tête contre ton épaule?
Oui, oui, tu es.
2 ans après Le Sens de la Fête, vous revoilà donc avec un film qu'il serait abusif hein, de qualifier de pure comédie, même si, comme toujours, on y retrouve de vrais morceaux de comédie dedans, mais quand même, grand écart entre les deux. C'est quoi? C'est un retour à la vraie vie?
Non, c'est-à-dire que nous, on essaye de faire un équilibre, ou en tout cas d'avoir les deux dimensions. D'habitude, on fait beaucoup de comédies, on essaye qu'il y ait, voilà,
Le curseur, alors.
Voilà, une lame de fond. Là, je crois qu'on était plus ému par ce sujet-là. Donc, on a mis la comédie presque en, c'est une balance pour justement, avoir, oui, pas un équilibre, mais c'est comme ça qu'on s'exprime. Mais ouais, c'est un film particulier. Dans la filmographie, ça restera même plus tard un film très particulier.
Mais on a quand même l'impression que dans chaque film, c'est la vraie vie. Pour nous, dans Le Sens de la Fête, c'est la vraie vie.
Oui.
Intouchable, c'est la vraie vie. Mais c'est vrai que on se dit pas tiens, allons faire rire. On se dit on écrit et on va voir comment la comédie elle arrive, comment elle se niche. Et c'est vrai que dans ces associations là, il y a des moments drôles quand on est avec eux. C'est jamais plombant. C'est lumineux. C'est plein d'espoir et on se marre beaucoup quand on est avec eux.
C'est la vraie vie rêvée aussi. C'est-à-dire, parfois, on sait bien que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe.
Oui, parce que la prise en charge des enfants autistes aujourd'hui en France, c'est vraiment ce qu'on peut qualifier un no man's land. Sans les associations dont il est question dans le film, les enfants seraient ou contraints de rester chez eux, ce qui n'est pas très adapté, ou enfermés en HP, des endroits dans lesquels ils n'ont absolument rien à faire. La situation est très, très alarmante. La pensée est peut-être naïve, mais est-ce que vous pensez que le film peut faire avancer ce dossier?
Bah, honnêtement, il est pas fait c'est pas un film militant, hein, c'est un film vraiment, on est proche de ces gars-là depuis longtemps, on avait envie de parler d'eux.
C'est pas un film militant, mais c'est un film qui engagé. Donne envie de militer.
Sortant. Mais en même temps, très franchement, oui, on aimerait bien que ça fasse bouger les choses. On a déjà eu des signaux, puisqu'on a fait une projection à l'Assemblée nationale, puisqu'on a rencontré Sophie Cluzel, parce que les deux gars des associations, on les a mis devant des décideurs importants en France. Peut-être que le cinéma, plus que tout, peut peut-être faire évoluer les mentalités, changer les regards. On a eu la chance de le vivre à un niveau avec Intouchables. Et peut-être qu'on s'est dit, inconsciemment, et on a mis un peu de temps avant de repartir dans ce genre de film, mais que c'était quand même un des pouvoirs incroyables du cinéma que de pouvoir, de temps en temps, toucher le cœur et changer le regard. Et quand on voit les parents qu'on voit dans les salles le soir, quand on voit les gens d'association, ils souffrent et ils en avaient un peu besoin qu'on leur prenne un peu leur en considération. Donc voilà, pourquoi faire un énième film si c'est pas pour essayer aussi de parler d'eux.
Hors Norme est sorti en salle depuis deux jours et à l'heure où je vous parle, on en est déjà à plus de 172 000 entrées hein, en 48 heures, donc on va dire que ça marche. Hein. Mmh. Est-ce que vous étiez plus anxieux avec celui-là qu'avec les films précédents ?
On est toujours anxieux.
Oui, mais là, c'est une autre forme d'anxiété, j'imagine.
C'est particulier. Puis aussi, comme l'a dit Eric tout à l'heure, on connaît ces deux jeunes hommes qu'incarnent Vincent Cassel et Reda Kateb depuis très longtemps. C'est un film qui était en nous. C'était nécessaire pour nous qu'il existe. Effectivement, c'est un film c'est un de nos films les plus engagés. Donc, on a toujours peur, on doute toujours. Et c'est vrai que là, pour nous, c'est un cap. Et c'est vrai que ces deux premières journées d'exploitation, ça nous a rassurés et confortés dans le sens que quand on est sincère et quand on fait quelque chose qu'on a vraiment envie de faire sans penser forcément est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, eh ben on est entendu.
Inquiet aussi, Antoine, parce que on ne sait pas comment le public reçoit quand on propose un sujet. Et comme ce n'est pas un sujet qui fait venir les gens dans les salles quand on dit on va parler de l'autisme, des cas sévères en autisme, on a toujours le doute que les gens se disent « bon, moi je ne vais pas au cinéma pour ça », etc. Donc quand on voit des gens dans les salles et quand on voit des chiffres qui sont des bons chiffres de démarrage, qui laissent augurer la possibilité que ça fonctionne. Il n'y a aucune garantie aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, on peut le penser que ça peut marcher. Ça nous rassure que le public suive même quand on va dans des coins un peu plus aiguisés comme ça.
Mais c'est une bonne nouvelle, oui.
Vous le disiez, vous connaissez Stéphane Benhamou, le créateur de l'association Le Silence des Justes, spécialisé dans l'accueil et l'insertion des enfants et adolescents autistes. Vous le connaissez depuis très longtemps, c'est de lui dont il est question dans le film. Vous avez travaillé avec lui, vous avez réalisé un documentaire sur l'association, mais qu'est-ce qui vous a définitivement donné l'envie de vous atteler à un long métrage sur le sujet ?
Parfois c'est le timing, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une société qui est dans l'hypertrophie de la communication, que justement on n'a jamais communiqué autant qu'aujourd'hui, et puis comme on les connaît et qu'on voit aussi une autre forme de communication chez eux, une forme de communication qui est pas verbale, qui est pas avec des mots comme vous et moi, mais qui crée quand même quelque chose, qui unit des gens qui sont très différents, parce que quand vous le regardez, enfin pour ceux qui verront le film, c'est une association dans laquelle tout le monde coexiste, ça soit une nana avec des piercings et des tatouages, des juifs pratiquants, des musulmans pratiquants. Donc ils arrivent quand même à communiquer quelque chose, ces enfants. Il y a quelque chose d'assez beau à regarder ça, et parfois... Nous, on fonctionne beaucoup, comme disent certains humoristes, parfois la comédie, c'est de la tristesse déguisée. On fonctionne beaucoup comme ça, par inversement. Au moment des attentats, on fait le sens de la fête, parce que oui, on ne voit que des hommages, que des gens qui pleurent. On a envie d'entendre les gens rire. C'est comme si on voulait dire aux gens, ne vous inquiétez pas, et il y a quand même des choses belles à voir. Après, quand on nous accuse d'être naïfs, ça nous fait doucement rigoler, parce que justement, c'est tout sauf de la naïveté.
Je voudrais juste terminer par ça, parce que vous avez fait tout le circuit promo, on vous a posé partout les mêmes questions, et je crois que l'information est passée, en tous les cas celle que vous teniez à faire passer. Moi, je voudrais savoir comment on organise un plateau de tournage avec des autistes. Comment, par exemple, on refait les prises, comment les acteurs s'adaptent à la différence de rythme. Est-ce que ça laisse une porte forcément ouverte à l'impro? Comment ça se passe?
Oui, de toute façon, on a pris beaucoup plus de temps qu'une préparation de film normal. On a fait un atelier théâtre dans une association qui s'appelle Turbulence, où est Joseph, qui s'appelle Benjamin Le Sieur dans la vie, un personnage important du film. Donc on a pris le temps de travailler et d'aller à leur rencontre et de gagner la confiance de tout le monde, des encadrants, des référents. Alors nous, on connaît certains jeunes depuis très longtemps, donc ça a facilité aussi cet accès-là. Ils nous ont ouvert leurs portes, on a impliqué Vincent Cassel et Reda Kateb très tôt. Et ensuite, nous... Pour tous les tournages, on guette les imprévus, on passe notre temps à chercher les miracles, à essayer que la grâce, elle vienne se poser sur les scènes. Et là, on était très heureux parce qu'on savait très bien qu'il pouvait se passer n'importe quoi, que c'était imprévisible, il fallait juste être prêt à capter un peu tout ça. Alors, il y a eu des moments difficiles, mais comme les encadrants des jeunes jouent dans le film, eh bien, ça nous aidait à avancer sereinement. Et c'est sûr qu'avec un personnage comme Benjamin Le Sueur, qui est un jeune autiste, eh ben, on a eu tous ces moments de poésie qui jalonnent le film comme ça dans ces petites séquences avec Vincent Cassel. Et pour nous, c'était un défi, c'était un pari. On avait envie d'inclure ces jeunes-là avec nous dans le tournage.
Ça s'appelle Hors Norme. C'est le nouveau, on va dire le nouveau Nakash Toledano, le nouveau Toledano Nakash.
Comme tu veux.
Ça marche dans les sens. C'est un film remarquable, je vous le dis, en vous regardant dans les yeux. Et vraiment, j'encourage tout le monde à se précipiter dans les salles.
Et on rit beaucoup, on l'a pas assez dit.
Pour le voir, oui.
On parlait beaucoup de l'émotion, mais on rit beaucoup.
Parce que vous avez beaucoup pleuré, mais
j'ai beaucoup ri aussi avant, ouais.
Absolument.
On rit aussi parce que Vincent Cassel galère avec les femmes, et ça, c'est quand même.
C'est une perspective très réjouissante.
Dans le film, bien sûr. Dites-moi, les gars, vous savez faire plein de choses. Vous savez faire ça?
Alors Olivier est beaucoup plus fort que moi dans
Olivier,
ces cas-là. Donc
tu m'entraînes quand j'écoute ton émission, à la fin je...
Alors j'écoute.
En plus j'imitais très bien Giscard avant. Et Bernard Mabille.
Ah oui, très bien, bravo.
Ah non, mais non, c'est dans le duo, il y en a un qui sait faire les choses.
Ah oui, d'accord, vous distribuez les rôles comme ça, c'est très bien. Bon, ok, ça me suffit, c'est pour lancer des pop news tout de suite.
Après l'horreur Made in France expérimentée avec la série Marianne, voici maintenant le fantastique en VF avec Mortel, toute nouvelle série qui se dévoile dans une bande-annonce.
Il y a quelque chose dans l'air. Quelque chose de mauvais qui approche. Désobéissant. Fourbe.
Je t'ai vu coller des affiches pour retrouver ton frère. Je peux t'aider?
Attends. Tu crois que si j'avais besoin d'aide, je viendrais voir un clochard comme toi là?
Je m'appelle OB. Je peux te donner des pouvoirs pour retrouver ton frère. Mais vous devez être deux.
Victor, non !
Salut.
Mais j'ai besoin de toi, Victor.
Des ados que tout oppose se retrouvent donc liés par une force surnaturelle incontrôlable. La série a été créée par Frédéric Garcia. 3 épisodes ont été réalisés par Simon Astier. Au casting, Nemo Schiffman, vu dans Elle s'en va face à Catherine Deneuve. Autant dire que je suis confiante. Mortel arrive le 21 novembre sur Netflix.
Quand notre chouchoute dévoile une nouveauté, on se précipite. En guise de troisième single, elle nous propose Good as Hell, version remixée avec Ariana Grande. Lizzo qui sera en concert le 4 novembre, salle Pleyel à Paris.
Et Olivier Nakache, Eric Toledano, votre venue ici aujourd'hui est l'occasion d'assouvir nos passions, mélomanie et mauvais goût. Oui, vous aviez mis à l'honneur Earth, Wind and Fire pour une séquence de danse mémorable exécutée par Omar Sy dans Intouchable. September l'est aussi à l'honneur sur notre chaîne YouTube préférée, Shitty Flute, qui propose donc de vilaines reprises à la flûte et au casou. Ne nous remerciez pas, c'est voilà, cadeau, vraiment.
C'est une classe de sixième, là.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
La force surnaturelle qui... Non, je sais pas.
Pas du tout, c'était Lizzo. Merci Charline, Olivier, Nakache, Eric Toledano. On va parler de French Touch dans la suite de Popopop avec l'histoire du groupe Phoenix racontée par Pedro Winter. Mais avant d'en parler, on les écoute avec ce morceau « If I Ever Feel Ever ».
They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try. try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives a hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star. It feels like a barbarian is still alive. I'm losing my battles on the side road.
Phoenix, If I Ever Feel Better, c'était en 2000 sur l'album United. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano, et vient de nous rejoindre notre pop chroniqueur de luxe, Pedro Winter. Bonjour Pedro.
Salut tout le monde.
Vous connaissez ces jeunes gens?
Eh ben, on fait connaissance. On se rend compte qu'on a plein d'amis en commun et d'affinités musicales. Mais c'est
vous
beau.
Vous avez tellement d'amis. Bon, Pedro, vous qui avez été le manager des Daft Punk, ça vous fait quoi de savoir que les Worlds Apart étaient à votre place ici même hier?
Eh ben, je vois que de tout à l'heure, j'ai entendu parler de Shitty Flute, maintenant de Worlds Apart. Mm-hmm. Gros niveau sur Pop Pop Pop. Et donc, on va essayer de relever un peu le niveau.
C'est une terre de contraste.
C'est exactement une terre de contraste. Alors, on vient d'entendre le morceau If I Ever Feel Better. C'est un morceau du groupe qui a marqué la French Touch, Phoenix. Et vous allez nous retracer l'épopée pop du groupe à travers, à l'occasion de la sortie du livre qui leur est consacré. C'est ça?
Liberté, égalité, phénix, c'est le nom de ce beau bébé de 240 pages. Alors non, il s'agit pas de la devise de la 6e République, mais c'est bien ce livre qui retrace 20 ans d'histoire du groupe. Donc c'est une retranscription d'une discussion à laquelle le lecteur est invité à se joindre avec les quatre membres du groupe, Deck, Branco, Thomas Mars et Christian, le tout orchestré par une journaliste anglaise qui s'appelle Laura Snaps. C'est une belle façon de célébrer les 20 ans de cette carrière, de cette success story versaillaise, d'ailleurs.
Versaillaise, et nous avons ici deux Versaillais dans le studio.
Mais Eric a failli être le cinquième membre de Phoenix. Deux,
J'étais à l'école, en tout cas, on parlait beaucoup de musique, et puis moi, c'était plus l'époque R, qui était dans mon lycée, mais j'ai toujours entendu parler qu'il y avait une partie de la French Touch qui était versaillaise. Ouais.
C'est ça, et alors justement, là, vous me tendez une perche parfaite, cher Eric. Les débuts sont plutôt expérimentaux chez Phoenix, ils mélangent guitare, synthé et boîte à rythme, un cocktail qui brouille un peu les pistes, et Phoenix se retrouve fer de lance de la French Touch, justement. Alors c'est une French Touch toute naissante aux côtés de Daft Punk et Rey Cassius, et notamment avec ce morceau Heat Wave, qui n'était pas encore le son que l'on peut connaître aujourd'hui avec Phoenix.
La grosse caisse est bien devant là. Hein.
Ah bah on a le droit de dire Italo-disco un peu.
Italo-disco complètement décomplexé, bien sûr. Alors très vite, le son s'aiguise et Phoenix trouve enfin sa sonorité. Un rock FM teinté de funk qui s'écoute sur les routes californiennes, les cheveux dans le vent, ou dans un sake-bar branché de Tokyo. D'ailleurs, c'est peut-être dans ce sake-bar que Sofia Coppola tombe amoureuse du groupe, et leur titre Too Young se retrouve dans la BO de son film culte Lost in Translation. Alors, 20 ans d'une amitié infaillible et grandiose ne peut que forger le respect. Alors, Phoenix, en quelques chiffres, c'est 6 albums, un Madison Square Garden à New York avec 20 000 spectateurs pleins à craquer, et en guest surprise, les Daft Punk, plutôt pas mal. Une chanson de Noël avec Bill Murray, une sublime reprise des Beach Boys, Alone on Christmas Day. Un Grammy Award du meilleur album rock indépendant en 2010. D'ailleurs, lors de cette cérémonie, rencontre ultime avec Dieu himself, à savoir Neil Young, qui lui, après 27 nominations et à chaque fois zéro Grammy, pour une fois il en recevait une ce soir-là. Et il y a une anecdote assez rigolote, c'est que le patron de la maison de disques américaine de Phoenix à ce moment-là attrape Neil Young en disant hey, « Eh Neil, les Phoenix ont gagné un award !» Et lui il se retourne tout gentil, tout posé, tel Yoda du folk. Il leur dit « Ah bah moi j'ai attendu 45 ans !» Donc souhaitons donc à Phoenix de continuer à faire vibrer les cœurs pendant les 25 prochaines années.
Merci. Merci Pedro. Vous avez eu le nombre d'infos à la, minute là. C'est quand même hallucinant. Hein. Ouais. Combien de battements par minute là dans l'info?
Il y en a eu pas mal.
Pas mal.
Mais il y a tant à dire et c'est pour ça que ce livre est vraiment utile.
Bon, je bouscule complètement le conducteur de cette émission. Est-ce que vous avez entendu parler d'un groupe qui s'appelle Grand Brothers?
Pas encore, mais dites-vous.
Ah voilà, j'ai réussi à voir Pedro Winter. Ouais. Bah, et ce sont les musiciens qui ont composé la musique de Hors Norme. Nous sommes bien d'accord?
Absolument.
Et si on écoutait un petit peu de Grand Brothers pour terminer cette émission? Découvrez ça, Pedro. Alors, où les avez-vous trouvés, ces Grand Brothers?
Eh ben, c'est un groupe de Düsseldorf. On écoutait des musiques, évidemment, comme tous, pendant qu'on écrivait. Et à un moment, ce piano préparait, c'est-à-dire, en fait, tout vient d'un piano, même l'électro vient du piano. Ça représentait bien ce qu'on voulait raconter, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'enfermement à raconter justement l'autisme sévère. Mais ce piano vient aussi raconter la douceur de ses éducateurs, de l'amour qu'il y a dans ses associations. Et à un moment, il y a quelque chose à la fois de très dur et de très beau dans cette musique. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, il va y avoir un moment où il y a des envolées que je trouve qui vont absolument bien avec ce qu'on a voulu raconter. Je veux bien, quoi. Si c'est possible,
bien sûr,
qu'on ait juste ce moment-là.
Ghislain, remontez-nous le son.
D'autres musiques dans le film qui leur appartiennent. Mmh. C'est marrant comme il y a des courants, on parle de Versailles, et là c'est Düsseldorf, c'est marrant comme la musique des fois se situe géographiquement dans des endroits du monde, et c'est vrai que là il y a une...
Mais c'est toujours des histoires de mélange chez nous, parce que voilà, on avait choisi Avishai Cohen qui fait du jazz un peu moyen-oriental, et qui mélangeait des instruments qu'il n'y avait pas dans le jazz, la darbouka, etc. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire au cinéma, c'est-à-dire de mélanger des gens qui ne se ressemblent pas. Mmh. Donc dès qu'il y a une musique qui mélange des genres, elle nous prend aux tripes. Et celle-là, je vous avouerai, elle est pleine aussi d'espoir. Mmh. Voilà,
c'est quand cette chanson arrive que j'ai les vannes ont lâché chez moi, je vous le dis. Voilà.
Arrêtez de parler de vos larmes, enfin,
bah, Charlie. Faut le dire, en fait, c'est pas si souvent qu'on pleure
plus fort pour qu'elle
repleure
un tout petit peu.
Non.
Pedro, ça vous plaît? Alors, vous êtes, évidemment, vous pouvez pas dire non, là.
Non, mais j'aurais pu très bien dire non. Cher Antoine, vous me connaissez pas assez bien encore. Et non, au contraire, non, je trouve ça super touchant. Et je ne suis que enthousiasmé par le fait que les réalisateurs prennent la musique. C'est aussi important qu'un acteur, quoi. Ça, c'est, vous pourrez le dire mieux que n'importe bien qui. Sûr, et voilà, c'est le troisième acteur de ce film, on dirait. Donc j'ai hâte de découvrir ça.
Mais tellement, on est d'accord que le film termine que sur ce morceau, il n'y a plus de dialogue. Donc l'acteur musique prend la parole à la fin. Patrick Topalov tout de suite qui revient avec Alibi Good 2
et on reste
Grand Brothers qu'on écoute, c'est le titre Blood Flow et c'est la musique, enfin une des musiques du film Hors Norme dont nous avons parlé. Moi je vous propose de terminer cette émission d'une toute autre manière avec notre séquence rituelle du vendredi, ça s'appelle le grand Nawak.
Prenez un guitariste débutant, coupez-le en deux, puis jetez-le sur votre plancha préalablement chauffé à 800 degrés minimum. Voilà, bien fait pour sa gueule.
Votre attention, s'il vous plaît. Un ingénieur du son est demandé de toute urgence. Je répète, un ingénieur du son est demandé.
N'importe quoi. Claudia porte une moustache en queue d'écrevisse, signée Paul Bocuse. Une jupe en tartiflette, signée Marc Ferrat. Et des babouches en béton, signée Lafarge. Oh.
C'était le Nawak du vendredi, c'est Alexandre Verret. C'est ici que se termine cette émission. Merci infiniment Olivier Nakache et Eric Toledano de nous avoir rendu visite pour parler de Hors Normes, votre nouveau film et qui est définitivement la prescription pop de ce mois-ci. Allez, mettons carrément le mois dedans. Bon, merci Pedro Winter, bravo.
Merci pour cette invite.
Très très bien mené et à très bientôt. Merci à l'équipe de Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Guillaume Rourourou, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Arestat, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Lundi dans Pop, l'auteur Marion Montaigne et Pascal Fioretto. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous, ou plutôt comme disent les Daft Punk à la fin de leur tuto sur YouTube.
Abonnez-vous à notre podcast.
Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials 36K. Je suis désolé, Pedro.
Attaquez-le.
Rien de personnel. 3615, pop sur Instagram et Twitter.